amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonjour, les poètes. Une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Jules Supervielle, ce grand poète, disait déjà « Comme la terre est lourde à porter, l'on dirait que chaque homme a son poids sur le dos, les morts comme fardeau, n'ont que deux doigts de terre, les vivants, eux, la sphère, Atlas, ô commune misère, Atlas, nous sommes les enfants, nous sommes innombrables, toute seule est la terre, et pourtant, il faut bien que chacun la porte sur le dos. » Voilà. Et c'est Martine Kaplan qui chante Jules Supervielle. Jules Supervielle, donc, très en avance, vous le voyez, sur son époque, puisqu'il avait pressenti, évidemment, tous les problèmes que l'on appelle maintenant les problèmes écologistes. Nous l'écoutons, Martine.
Comme la terre est lourde à porter, l'on dirait que chaque homme a son poids sur le dos. Les morts comme fardeau n'ont que deux doigts de terre. Les vivants, eux, la sphère. Atlas, nous sommes tes enfants, nous sommes innombrables, toute seule est la terre, et pourtant, il faut bien que chacun la porte sur le dos, et même quand il dort encore ce fardeau, qu'il le fait soupirer au fond de son sommeil, sous une charge sans pareille. Plus lourde que jamais la terre en temps de guerre, elle saigne en Europe et dans le Pacifique. Nous l'entendons gémir sur nos épaules lasses, poussant d'horribles cris qui dévorent l'espace. Mais il faut la porter toujours un peu plus loin, pour la faire passer d'aujourd'hui à demain. Mais il faut la porter toujours un peu plus loin, pour la faire passer d'aujourd'hui à demain, d'aujourd'hui à demain, d'aujourd'hui à demain.
C'était Martine Kaplan que nous saluons. Encore aujourd'hui, nous dit Kamel Daoud, le récit de la guerre, excusez mon silence, mais effectivement, au moment où l'on parle, nous sommes toujours sans nouvelles de Boualem Sansal. Donc encore aujourd'hui, en Algérie, le récit de la guerre de libération ou celui des hystéries nationalistes tue des écrivains, ou leur impose un procès, puis une exécution, ou l'exil, ou la diffamation. Tous les écrivains algériens apparaissent camusiens par leur destin et leur statut face à l'unanimité. Alors qu'est-ce qu'il veut dire Kamel Daoud? D'abord, il reconnaît, bien entendu, la valeur intrinsèque et même, je dirais, la valeur morale d'Albert Camus. Albert Camus, qui a été passé absolument sous silence par l'Algérie après son indépendance. Et puis il parle de ce qu'il appelle l'unanimité. L'unanimité, c'est quoi ? Eh bien, l'unanimité, c'est l'unanimité du gouvernement, c'est-à-dire c'est l'unanimité de tous les gouvernements totalitaires. Et souvenons-nous de ce qu'écrivait Georges Bernanos. Georges Bernanos, écrivain donc du siècle dernier, qui nous a donné Les grands cimetières sous la lune, un véritable chef-d'œuvre, et qui disait: si je suis l'adversaire du gouvernement de M. Philippe Pétain, on lui demandait sur ça pourquoi il était l'adversaire de Pétain alors que lui était un Français, on dirait aujourd'hui nationaliste, tout à fait de droite, qui prônait évidemment les valeurs de la patrie, de la famille, donc ce qui correspondait à ce qu'a mis en place Philippe Pétain dès son arrivée au pouvoir. Et donc il dit: non, je suis l'adversaire du gouvernement de M. Philippe Pétain. Et il disait: c'est que, quelles que soient ses préférences secrètes, et dans ses préférences secrètes, on sait que Georges Bernanos pourrait s'y reconnaître, c'est que Philippe Pétain, il a parié sur la victoire totalitaire, et moi, j'ai parié, dit Georges Bernanos, sur la défaite totalitaire. Voilà. Eh bien, nous allons parier aussi sur les défaites totalitaires de tous ces pays qui nous embêtent un petit peu. Actuellement, dans cette situation aussi en Algérie qui retient des écrivains comme Boualem Sansal. Et puis, puisque nous parlons d'écrivains dans le monde arabe, je voudrais rendre hommage ici à un grand écrivain du monde arabe, un très grand écrivain du monde arabe, pour lequel nous avons beaucoup d'amitié et qui est à l'honneur ces temps-ci, puisque il est sur la liste donc des gens qui ont publié récemment et donc dont nous devons parler. Alors il s'agit de Abdelatif Lahabi, dont nous allons parler dans quelques secondes, mais auparavant, je voudrais vous lire un petit texte, justement pour penser à Abdelatif Lahabi, qui lui vient du Maroc, et qui connaît bien Fès, bien sûr, puisque c'est sa ville natale. Fès, il est né à Fès, Abdelatif Lahabi, en 1942. Et voici ce que dit de Fès Michael Ondaatj dans un recueil de poèmes paru aux éditions de l'Olivier, qui s'appelle « L'année des dernières fois », que je vous recommande également. Hein. C'est très agréable à lire toujours Michael Ondaatj. Vous savez, Michael Ondaatj, il est né à Ceylan, dans le Sri Lanka. Et bon, c'est un contemporain de Abdelatif Lahabi, puisqu'il est né en 43. Hein. Bon, il vit actuellement au Canada. Et il est très célèbre depuis la parution de son roman Le passé en anglais, qui a fait l'objet d'un film qui est absolument un chef-d'œuvre. Alors, écoutons Michael Ondaatj, son poème sur un quart pour Fès. Il y a des années, j'ai passé 6 heures dans un quart pour Fès à tenir une conversation presque silencieuse avec une femme qui m'avait souvent convaincu de ne pas faire certaines choses. Changer de vie, une bêtise. Et pendant que nous parlions, le car roulait de l'après-midi à minuit. Le froid gagnait le désert jusqu'à ce que je sois seul, affamé. Je devais l'avoir imaginé pour avoir quelqu'un à qui parler. Nous avons erré durant ces brèves années d'amitié, nous arrêtant à des moments que nous rappelions tous deux, sa main légère sur ma manche pour m'avertir d'une flamme, son rire dans la chambre devant une chose idiote que je disais. Ou une fois, après l'aveu maladroit d'une trahison, déclarant « C'était les années 60 !» Un temps où j'étais encore naïf, ignorant des vies secrètes des autres. nous approchions d'Éphèse. Nos souvenirs inachevés, surpris par l'heure tardive, nos dialogues imaginés devenus rêves. Plus tôt, elle avait murmuré combien douceur était souffrance. « Qui a dit ça ? » avais-je demandé. « Oh, une femme, bien entendu, attachée à un homme la majeure partie de sa vie. » Et mon ami, à bord de ce quart de nuit, brinque-ballant, a récité dans le noir, « Je ne veux plus embrouiller le monde avec des chansons d'amour. » Elle semble pareille au craquement géant d'un navire en bois qui n'arrive jamais au port à cette époque. Je n'ai rien dit. Je savais que nous aimions tous deux nous isoler, que nous n'avions jamais partagé la solitude qui nous habitait. Elle a écrit un magnifique poème sur Eurydice, a-t-elle chuchoté, craignant la lumière publique de l'homme, craignant d'être ramenée chez elle. Comme si c'était l'indice révélateur de toutes les histoires. Une rafale de pluie est entrée par les vitres de notre car, allant de Marrakech à Fès. L'obscurité nous cachait aux yeux des autres. J'imaginais les voyages que nous aurions pu faire lors d'une pause dans son existence ou la mienne, faire une ville aussi inconnue que nous l'étions l'un pour l'autre, sans rien, ou peut-être entre nous. Oh oui, ça aurait été bien de voyager avec toi un jour. Disant cela d'un ton pensif avec un accent traînant, exagéré, inventant la voie destinée à protéger le secret en elle. Nous aurions pu nous découvrir avec frénésie, quelque part, à Carthage, dans une chambre étrangère, notre lit sur ses roulettes secoué sur le bois nu, jusqu'à ce qu'il se cogne au mur, sans que nous sachions vraiment où ni même qui nous étions. Elle ne m'a jamais parlé ainsi, mais dans ces heures jamais partagées entre nous, à côté d'inconnus, la vérité se devait de n'être pas davantage qu'un murmure, tout comme le contact de la peau mouillée de son épaule semblait intime contre la mienne, humide après la pluie. « Dis-moi, s'il te plaît, » a-t-elle demandé d'une voix songeuse, « après toutes ces années, dis-moi ce que tu penses de moi. » Puis, baissant les yeux sur ma main impatiente, « sincèrement. » Michael Ondaatje, l'année des dernières fois, donc ce poème, cette prose poétique sur la ville de ce voyage sur Fès, un quart pour Fès. Et là, en lisant ce texte, ce poème en prose, je repensais moi-même au voyage que j'ai fait en quart dans le Maroc en 1969. Et année où, l'année de mois de décembre, il avait eu des pluies vraiment torrentielles sur le Maroc à cette époque-là, et donc on ne pouvait plus circuler en train, et donc nous étions obligés de circuler en car. Je me souviens effectivement des journées entières passées dans les cars pour aller de Tanger à Rabat, de Rabat à Fès, comme lui. Alors Abdelatif Labi. Abdelatif Labi, d'abord nous le saluons parce que Abdelatif Labi est attaché à la ville de Toulouse dans la mesure où il a été le lauréat l'année dernière du Grand Prix de poésie de l'Académie de Jeux Floraux de Toulouse, hein, ce Grand Prix de poésie. Donc, et il a été donc à l'honneur le 3 mai 2024 lors du 7e centenaire
des jeux floraux de l'Académie de la ville de Toulouse, dans la salle des illustres. Abdelatif Labi, je vous disais, donc déjà, il est né à Fès en 1942, et il a fondé en 1966 cette fameuse revue Souffle, qui a été pris comme tel, d'ailleurs, par le gouvernement d'Hassan à l'époque, Hassan II, comme un acte de subversion. Et donc voilà notre poète qui, tout d'un coup, va devenir le subversif du champ littéraire et culturel au Maghreb, ce qui n'était pas rien. Son combat pour la liberté, Abdelatif Labi, lui a valu d'être prisonnier, je crois, 8 ans, hein, 1972, à partir de 1972 à 1980, si ma mémoire est bonne, donc au Maroc. Vous imaginez ce qu'était la détention. Et depuis, je crois, 1985, eh bien, il vit en région parisienne. Et bien qu'il explique qu'il est, je crois, dans sa vie, déménagé 14 fois. Alors, il vit pour la poésie. Et il est l'auteur d'une œuvre magistrale. Parce que son œuvre va englober tous les genres littéraires, mais c'est surtout la poésie qui va y occuper la place centrale. Alors il a été couronné par de nombreux prix, donc l'année dernière, ce grand prix de poésie de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, ici. Hein, il a été vraiment le prix le plus important, le phare de ce 7e centenaire de l'Académie, Abdelatif Labi. Mais auparavant, il avait eu, alors je dis de mémoire, le Goncourt de poésie, et le Grand Prix de la francophonie, puisque son œuvre, bien entendu, est traduite dans un nombre grandissant de langues, et que Labi a traduit aussi en français plusieurs écrivains arabes, et d'ailleurs, là, il a traduit les textes de l'arabe Palestine. Donc, pour un livre dont je vais vous parler dans quelques secondes. Alors, il est notamment l'auteur du Principe d'incertitude aux éditions de référence et l'arbre à poème à lire dans la collection Poésie Gallimard, collection de poche, donc tout à fait abordable, qu'il faut absolument que les amateurs de poésie, toute personne qui aime la poésie doit avoir lu. Et puis, je vais revenir, moi, sur trois livres de Abdelatif Labi. Le premier, c'est L'espoir à l'arraché, c'est paru au Castor Astral. Et puis, ses dernières publications, tout à fait dernières, hein, ses publications de 2025, c'est l'anthologie de la poésie gazaoui d'aujourd'hui. Ce sont les textes qu'il a traduits de l'arabe, donc de la Palestine, et qui ont été réunis par Yassine Adnan. Et c'est dans la collection Poésie Point. C'est une collection qui est dirigée par Alain Nabankou. Et puis, sa dernière parution, une grosse parution, d'Abdelatif Labi. Alors, on va retrouver le Castor Astral Poésie. Très beau livre, très très beau livre encore. Presque rien au pluriel, précédé de L'espoir à l'arraché. Ça, c'est sa dernière, ultime publication. Je vais revenir sur L'espoir à l'arraché. Qui avait paru Oui, je vois qu'il y a une... Effectivement, il reprend ces textes qui avaient paru quelques années avant, en 2018. Alors, pourquoi reprend-il ceci, L'espoir à l'arraché? Alors, le recueil d'Abdelatif Labi, le dernier, Presque rien, je reviens donc, je repasse à son dernier recueil. Il dit que c'est aujourd'hui plus que nécessaire, puisque elle est une boussole à l'heure des grands bouleversements mondiaux, imprégnée par la situation géopolitique du monde, des conflits et des guerres. Ses poèmes sont alertes et précis. Abdel-Latif El-Arabi retraverse également le champ bataille de sa propre existence. Derrière l'ironie amusée, c'est presque rien, concentre les moments essentiels de sa vie. Il se souvient du prisonnier qu'il fut dans son pays d'origine et comment la poésie et l'amour l'ont sauvé. C'est une porte d'entrée exceptionnelle et unique dans l'intimité de ce poète pudique. Alors, en assemblant anecdotes et fragments de pensées personnelles, il réaffirme les combats à mener pour plus de justice, d'égalité donc, et de liberté. Je vais commencer par peut-être lire un extrait donc de ce presque rien précédé de l'espoir à l'arraché. Lire ce qu'il dit dans Un cœur qui bat, Abdel-Latif El-Arabi, puisque c'est un texte très, très récent qui a été écrit en février 2025. Un cœur qui bat, que l'on sent battre, que l'on voit battre comme lors d'une opération à cœur ouvert, qui s'arrêtera un jour sans prévenir, se détachera de son arbre et retournera à la poussière. Le cœur unique de chacune et chacun, à l'instar de la voix, du rire, du cri, propre à chacune et à chacun. Le cœur qui, dit-on, penche, balance, bat la chamade, remonte à la gorge, s'affole, chavire, se fend, se brise. Le cœur blanc, noir, chaud, froid, tendre, sec. Le cœur qui n'en peut plus, sur le point d'éclater, transpercé, qui saigne. Le cœur bien accroché. Rodrigue, as-tu le cœur? Que de livres, d'œuvres d'art, de vies sont remplies à ras-bord de ses affaires. Le cœur et son œil. Troisième du nom, l'œil des profondeurs, familier des ténèbres, capable de traverser le mur de la lumière, incorruptible. Entre deux battements, le cœur qui écoute, et dans ce laps de temps, prend la mesure de l'infini. Le cœur qui me dit, te dit, lui dit. Sa langue, à peine déchiffrée, se passant d'alphabet, fâchée avec la grammaire, la syntaxe, d'aucuns sont capables de le faire taire. Il est arrivé dans l'histoire qu'il soit arraché de sa cage et dévoré cru. Chez certains, un caillou ou une godasse peut prendre sa place. Le cœur, un baromètre très fiable, du degré de barbarie atteint, selon les époques, par l'espèce dite humaine. S'il connaît des alertes, il alerte à son tour. Ne pas oublier aussi qu'il est mélomane, s'abandonnant aux caresses que lui produisent certains aliments, instruments et répondant du tac au tac au rythme endiablé de certains autres. Le sang dont il irrigue l'organisme s'avère être le meilleur conducteur en la matière. Ce sang qui, par ailleurs, a démontré de façon irrécusable qu'il n'y a ni deux, ni trois, ni dix races humaines, mais une seule. Le cœur qui est le mien, ayant battu à se rompre lors de mon premier face-à-face avec la mort à l'âge de 6 ans, au milieu d'une manifestation nationaliste dans ma ville natale de Fès. De ma première expérience amoureuse d'adolescent, merveilleusement platonique, où seuls les yeux avaient l'usage de la parole. De la découverte de mon premier texte publié dans une revue confidentielle, à l'odeur impérissable du papier de cette revue, de son encre, la majesté de ses caractères d'imprimerie. De l'instant où j'ai senti, sans que la foudre soit tombée, que cette jeune fille-là, et pas une autre, allait être mienne. Oui, mienne, dans le langage machiste de l'époque. De ce petit matin pluvieux, de janvier 1972, dans une pièce d'un commissariat, au pays que certains se plaisent toujours à considérer comme le plus beau du monde, où j'ai su que les trois tortionnaires qui m'entouraient allaient passer à l'acte. De ce crépuscule où j'ai enjambé le seuil du portail géant de la prison et me suis retrouvé à l'air libre et découvert en le humant que ce n'était pas une simple expression. Non, non, l'air lui aussi pouvait être libre, diablement libre, de... Il y en eut tellement après. Et puis, il y a eu, depuis que j'ai appris à lire et à écrire, certainement pas calculé. Le moment où s'est produit ce basculement, cette transmutation, cet avènement, cet enfantement, cette mort-résurrection. Quoi ? Comment ? Pourquoi ? La raison raisonnante ne me sera d'aucun secours pour apporter des réponses. Mais vous alors témoignez de ce que j'ai éprouvé, vu, des bouleversements qui se sont produits dans mon corps, mon esprit, ma mémoire. Pour faire simple, je dirais que j'ai senti pour la première fois que j'étais vivant. Mon cœur, on y revient, ne battait pas en pure perte, inaudible. Je l'entendais, l'écoutais. De ces pulsations naissaient des mots inhabituels, aptes à nommer toutes les espèces de ma faune et ma flore intérieure, à dessiner celles-ci en suivant les gestes et les prunelles de nos lointains ancêtres, quand ils inscrivaient dans les grottes et sur les pierres levées dans les déserts ce qu'ils pensaient destiné à l'éternité. C'est ainsi que ma voix a accueilli la parole et lui a donné libre cours. De me sentir vivant, de disposer du moyen de rendre compte, m'ont permis d'explorer mon continent intérieur et me préparer à l'exploration du monde, de l'humaine condition. De me frotter aux deux grandes énigmes, celles de la vie, l'amour, la mort, mais aussi aux questions du sens en toutes choses et de toutes choses. Exemple. Je, est-il un autre ou plusieurs ? Au lieu de « dessine-moi un mouton », le petit prince n'aurait-il pas mieux fait de demander « dessine-moi l'infini ». Comment concevoir, juste concevoir, l'idée de l'éternité ? Où situerait-on la limite entre la barbarie et la civilisation ? Ce monde qui est le nôtre, est-ce une réalité ou une fiction ? Et une dernière, survenue avec le grand âge. L'espoir est-il une religion ? Après ces questionnements, qui peuvent paraître sombres, alors que je les trouve tonifiants, il est temps d'aborder ce qui est sauvé, sauvegardé, partagé, transmis par cette grande lectrice du cœur qu'est la poésie. Poésie. Le mot est lâché. Il est vrai que je tournais autour du pot, car j'ai en horreur ces tonnes de discours que l'on tient depuis que la poésie existe sur ce qu'elle est ou n'est pas, le conscient et l'inconscient qu'elle, entre guillemets, travaille. Les mystères insondables qu'elle touche de son aile, les musiques célestes qu'elle lâche dans la langue, ces intuitions qui confinent à la prophétie, ces obscurités radieuses, sa science philosophique sanctuarisée. Merde ! Je me permets ce genre de propos qui vient pour ainsi dire jamais sous ma plume. Mais j'ai tellement souffert depuis des décennies de ce discours de pontes universitaires ou de docteurs, est-ce poésie autoproclamée, que je ne suis pas mécontent de me lâcher, car cela fait maintenant bien plus d'un demi-siècle que les sentiers de la poésie, comme ceux de la liberté, ne me sont pas étrangers. J'ai vécu plusieurs vies et 14 déménagements, comme je m'amuse parfois à le dire.
l'enfer m'est familier, alors que le paradis religieux ou artificiel me laisse de marbre. J'ai connu des expériences limites en matière de souffrance du corps et de la raison, de mise au rebut des sens qui permettent à l'individu de garder le lien avec ses semblables et les êtres les plus chers à son cœur, au point que je ne peux plus supporter les balivernes savantes que l'on tient encore sur la poésie du haut aseptisé de certaines chairs ou de la fosse sceptique de certains moyens de communication. Basta ya! À contre-courant, je dis que c'est le vécu qui fonde et autorise la poésie. Le vécu et ses brûlures au fer rouge, ses éblouissements, ses chemins qui s'inventent en marchant et ses impasses, ses doutes confinant à la paralysie, ses passages à vide, ces états d'extrême faiblesse et de force insoupçonnée, d'abandon magnifique quand l'amour prend les rênes, d'affliction que rien ne peut adoucir face à l'enfance que l'on assassine, aux femmes qu'on annihile, aux pays et à leurs peuples que l'on renvoie à l'âge de pierre. À contre-courant, je dis que la poésie, qui ne fait pas battre le cœur, m'agresse et me chagrine. La poésie, qui n'aiguise pas en moi la faculté de l'intuition, m'indiffère. La poésie, qui ne me rend pas, entre guillemets, voyant, selon l'expression d'un jeune poète de la fin du XIXe siècle, eh bien, je m'en passe. La poésie, qui ne m'est pas doux guide et maître exigeant, je m'en écarte. La poésie qui ne me fait pas mal tout en me faisant du bien m'est étrangère. La poésie sans l'archet du musicien et la palette du peintre n'est que ruine de l'âme. Et puis, comme je l'ai écrit récemment dans un livre qui lui est entièrement consacré, la poésie est invincible. Voilà. Mon cœur bat plus fort, pourvu qu'il ne s'emballe pas trop. À mon âge, ça, entre guillemets, ça craint. Comme dirait mon petit-fils. Merveilleux texte. Et je souscris sans réserve, à tout ce qui est énoncé par, et dénoncé, par Abdelatif Lahabi, donc, dans cette magnifique préface. Et ici, nous avons essayé de parler de cette poésie essentiellement. Bien sûr, il faut parler de toutes les poésies parce que c'est une obligation, on ne peut pas, c'est une obligation culturelle. Mais honnêtement, moi, une poésie qui n'est pas fondée sur le vécu, c'est quoi ? Une poésie qui n'est pas fondée sur le vécu. Merveilleux, Abdelatif Lahabi. Alors, je rappelle le titre de ce livre qui vient de paraître au Castor Astral, Presque rien, rien avec un S, donc précédé de L'espoir à l'arraché, qui avait fait l'objet donc, déjà d'une édition du Castor Astral en 2018. Alors, je vais reprendre des textes, donc, Elle, c'est le titre du sous-recueil, Elle. Elle venue de ce futur touchant à l'origine, un rire parfait l'annonce, et la création entière médusée l'observe, tenant de l'infini par les deux bouts, le fil, à l'approche du prodige, l'horizon se dénude sciemment et l'air manque comme à l'acmé de l'acte charnel.
l'entrepôt de la guerrière. Sa hanche culminante de l'élixir brûlant à peine repu, la chute vertigineuse de ses reins, libérant par vaguelettes paresseuses les fragrances de la vulve sur son duvet imperceptible, l'empreinte encore fraîche d'une langue plus experte sur ce chapitre que les lèvres. À sa vue partielle, très partielle, le temps s'amplifie et s'approfondit. Son temps à elle. L'inconnu que l'on a cru connaître un peu beaucoup. Celle qui nous a habités jusqu'à la moelle, jusqu'aux détails infimes de nos cauchemars. Celle pour laquelle nous avons renoncé au miel fauve de nos yeux pour arborer l'outre-mer des siens. Celle auprès de laquelle tout était à sa place et remplissait ses fonctions, les cinq sens, les quatre éléments et même quelques-uns, les dix commandements. La plus qu'intime qui maintenant, à mesure qu'elle se rapproche immanquablement, s'éloigne. La voilà qui parle. Des mots patiemment choisis, des phrases solides qui teintent comme le marteau sur l'enclume. Que dit-elle? Avec sa force surhumaine que l'être controversé n'entend qu'en partie et de son oreille mâle, peut-être la matière d'un livre entre Bible et Coran, que des mains impures auront le droit de toucher et d'en tourner allègrement les pages. Le scribe sera alors une femme et le transmetteur une autre femme. Abdelatif Labi. Donc vous voyez à quel point vraiment ce grand poète, quand il parle de la femme, cette louange de la femme est une louange universelle qui s'inscrit dans les plus grands poèmes d'amour. Et Abdelatif Labi est un poète qui, comme tous les poètes, et surtout lorsque l'on a été emprisonné, découvre évidemment ce qu'est la solitude, ma solitude. Je découvre la solitude, non, pas l'ordinaire, examinée sous toutes les coutures, arpentée jusqu'à plus soif. C'est un état d'âme que je n'ai pas rencontré chez autrui, ni même dans les livres. Contre pareille chose, l'amitié, la fraternité, l'amour ne peuvent rien. Ce ressenti-là n'empêche pas de se battre pour de nobles idéaux, n'interdit pas la joie, le rire, le partage, le transport des sens, mais il lancine dans chaque inspiration, chaque expiration, chaque regard jeté vers le ciel ou l'horizon, chaque mot couché sur la page, c'est comme un hameçon qui s'est logé dans la gorge et avec lequel il faut continuer à boire et à manger. Pardon à toutes celles, tous ceux que j'aime. C'est un texte magnifique, mais c'est un texte, comment dirais-je, presque tragique. Comment, et c'est là peut-être tout le talent de Abdelatif Labi, pouvoir parler de cette solitude que certains êtres, dont lui, portent au plus profond de lui-même, qui est une espèce d'écrasement une solitude métaphysique profonde qui entraîne évidemment vers ce retrait, un retrait personnel, mais dont il dit que ce retrait, évidemment, ne va pas l'empêcher de se battre donc pour son idéal, ce qu'il a toujours fait. Mais il a conscience de cet état d'esprit, et ça, on retrouve le vécu. Il ne peut s'adresser là véritablement qu'à ceux qui profondément ressentent ça aussi, et je crois que beaucoup d'artistes peuvent ressentir aussi cette solitude, peut-être vis-à-vis de la vie triviale aussi que l'artiste peut ressentir, en se sentant retranché, bien sûr, dans peut-être les profondeurs de sa pensée, son sentiment, tout ce qui est son ressenti, et qui fait que il y a une espèce de paralysie, mais qui est aussi une angoisse existentielle, tout simplement, cette solitude. Quand il dit que c'est comme un hameçon qui s'est logé dans la gorge, et avec lequel il faut continuer à boire et à manger, c'est ça. Et évidemment, là, on ne peut s'adresser qu'à ceux qui ont pu ressentir ça. Mais je sais que parmi les poètes, parmi les poètes authentiques, et en particulier les poètes qui ne sont pas ceux dont les poètes autoproclamés ou les poètes en chair universitaires, cela, mon Dieu. Malheureusement, c'est les plus nombreux, quand même. Hein. Mais des poètes comme Labi, qui ressentent cette solitude contre laquelle, en définitive, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Si ce n'est que, eh bien, il faut continuer à se battre pour son idéal. Hein. Il faut continuer à avoir des élans d'amitié, de fraternité, d'amour. Un des grands poèmes, donc, sur la solitude, que vous trouverez dans ce recueil Presque Rien, précédé de L'Espoir à l'arraché, de Abdelatif Labi. Et puis, ça, nous l'avons déjà lu, je crois, ce poème. La poésie m'a sauvé. Jusqu'à maintenant, la poésie m'a sauvé, mais je comprends qu'elle puisse se lasser des appels au secours, même de ses fidèles serviteurs. Voilà, quelques textes, quelques lignes qui disent tout, quoi. Abdelatif Labi. Je vais prendre maintenant des textes un peu plus longs. Je vais vous parler des regrets, de ces regrets. J'ai caressé au plus intime les rêves les plus farouches, harcelé l'indicible pour lui arracher quelques confidences, et suis parvenu à entrouvrir la porte du grand mystère. Mais, imprévoyant comme je suis, roi des inconscients, je n'ai jamais pensé à prendre la moindre note, à gribouiller le plus petit dessin. J'avais en horreur les pensées bêtes et me fiais trop à ma mémoire, la traîtresse. Une vie pleine de trous, selon l'expression de l'un de mes prédécesseurs. Des cases manquantes, des chaînons arrachés ici et là par une main haineuse. Devrais-je dire ennemi? Une vie que l'on doute sincèrement d'avoir déjà vécue, tant elle semble embryonnaire, voire hypothétique. Je parle de quoi? De qui, là? Ah, alors oui, des regrets. J'en ai à l'appel. Des exemples. Eh bien, ne pas avoir, ne serait-ce qu'une fois, une seule et unique fois, répondu à la violence par la violence. N'avoir mangé que la moitié de la pomme, et n'avoir bu pour la faire passer que la moitié du verre. Ne pas avoir été en amour davantage conquis que conquérant,
plus inspiré à l'écrit comme à l'oral, ne pas avoir été suffisamment riche pour mépriser, en connaissance de cause, les richesses, ne pas avoir été suffisamment pauvre pour accéder à la dignité parfaite du dénuement, n'avoir rien préparé pour accueillir honorablement la vieillesse, une maison sans trop d'escalier posée sur un voilier toujours appareillant, un jardin aménagé dans la pure tradition érotique arabe, un genou de substitution et mille fioles, des parfums disparus de l'enfance, ne pas avoir appris quand il était encore temps les langues qui aujourd'hui me manquent quand je veux m'adresser à l'étoile d'origine, à mes frères volatiles et quadrupèdes, à l'esprit de Gita ou de Chaker, à mon sosie disparu en bas âge. Ne pas avoir écrit le livre des livres, où j'aurais mis tout sans dessus dessous, donné libre cours aux hérésies que j'ai à peine effleurées, aux malédictions que je n'ai distribuées qu'avec parcimonie, où ma langue entièrement dénouée m'aurait épargné dans un ultime réquisitoire rien, ni personne, à commencer par moi-même. Ne pas avoir composé avec l'effroyable, la truculente matière de mes prisons, une nouvelle comédie humaine. Tiens, ne pas avoir eu la témérité de m'évader de prison, pour faire la nique aux tyrans, et vivre jusqu'à l'ivresse de la folie, les 8 ans et demi qu'il m'a volé. Ne pas avoir réussi malgré toutes mes pétitions de foi, mes plaidoiries, à écrire pour de bon en langue arabe. N'avoir jamais su jouer d'un instrument de musique, fût-ce du petit tambourin que les conteurs publics ajustent sur l'épaule et tapotent de 2 doigts pour ponctuer leur récit. Ne pas avoir commencé à peindre dès le plus jeune âge. Ne pas avoir vécu, au lieu d'en rêver et d'en faire rêver, une vie de rechange qui se serait passée pour moi, on l'aura deviné, quelque part en Andalousie, et peu importe l'époque. N'avoir jamais eu le courage d'envoyer paître, sans autre forme de cérémonie, les solliciteurs sans pitié, les médisants de faible envergure, les malades de ne pas être, les admirateurs suivant la rumeur, les lecteurs sans preuve, les amis au cas où, les tueurs de beauté dans l'œuf, les journalistes faute de mieux, des politiciens mort-vivants, plus sales, moins utiles que des serpillères. N'avoir eu que si rarement l'occasion de dire oui. Alors que je n'ai cessé de dire non, non et non sur tous les tons. Voilà. Encore un grand poème qui dit beaucoup de choses. Alors, quand il parle de à mes frères volatiles et quadrupères, à l'esprit de Gita, alors Gita, il faut savoir que c'est la mère du poète, Gita, à l'esprit de Gita, ou de Chaker, dit-il. Alors, Chaker, c'est Chaker Farza, c'est un ami de Abdelatif Labi, c'est un ami qui est peintre, il est syrien. Et il est mort brutalement en 2007. Voilà.
Alors, il y a beaucoup de choses là dans ce texte. Il y a une richesse incroyable. Et cette richesse, elle est d'autant plus incroyable que vous avez vu à quel point cette poésie est une poésie de la simplicité. Une simplicité absolue. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle nous touche aussi profondément et aussi spontanément, parce qu'elle est revêtue de cette simplicité qui va directement à l'os, hein, qui nous touche. Elle nous touche bien entendu au cœur, comme il dit, hein, immédiatement, parce que il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de métaphore savante, il n'y a rien entre l'état d'âme qu'il nous décrit et que l'on a, on s'approprie immédiatement, et nous-mêmes. Et ça, très peu de poètes, et tout en étant parfaitement intelligible. Il n'y a rien qui soit incompréhensible dans ce texte, rien d'hermétique. Et quelle puissance, mais aussi quelle puissance métaphysique et philosophique quand il dit que il a passé sa vie à dire non. Bien sûr qu'il ne pouvait difficilement, dans la vie qu'il a vécue, il pouvait difficilement dire oui. Ça voulait dire qu'il aurait vécu au paradis, tout allait bien, et c'était pas le cas. Donc dire non, et c'est aussi la vocation du poète, bien entendu, c'est la vocation de tout homme digne de ce nom, cette faculté de dire non. Et il y a d'ailleurs, à ce propos, je crois que c'est la revue Esprit, ou la NRF, qui a consacré, je parle de mémoire là, qui a consacré un numéro à cela, dire non. Et j'ai cité tout à l'heure, début d'émission, Kamel Daoud sur ça, mais dire non, c'est peut-être le plus important dans la vie. Pouvoir dire non, bien sûr que tout le monde souhaiterait dire oui, tout le monde souhaiterait que tout se passe bien, mais dire non, c'est quoi? Et c'est peut-être c'est ce que fait Camus quand il dit « je me révolte, donc nous sommes ». Et lorsqu'il dit aussi la conscience vient au jour avec la révolte, Albert Camus qui disait il n'y a pas de justice, il n'y a que des limites. Voilà, nous allons terminer puisque le temps nous a rattrapé. Nous allons terminer donc cette émission en vous rappelant le titre de Abdelatif Labi, presque rien, précédé de L'espoir à l'arraché, Le castor astral, poésie, magnifique livre, qui vous coûtera 20 euros, et puis également L'anthologie de la poésie Ghazaoui d'aujourd'hui, c'est les textes publiés donc par Abdelatif Labi, c'est dans la collection Poésie Point, et cela vous coûtera, je crois, moins de 7 euros. Et nous en reparlerons donc dans l'émission prochaine. Ainsi s'achèvent les poètes. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente semaine à l'écoute de Radio Occitanio et nous vous disons la semaine prochaine. Adiciats.